Bonsoir à tous et à toutes. Nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, programmée tous les mercredis de 18 à 19h sur Radio Galère 88,4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence qui anime l'émission. Je suis avec Jean-Yves.
Bonjour Bernard.
Bonsoir Jean-Yves, et je suis Bernard. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, Palestine 13 et BDS Provence. Vous pouvez aussi nous écrire à asso.palestine13@gmail.com et bdsprovence@orange.fr. Merci à Sidi qui assure la technique de l'émission. Alors, quelques actualités encore. Vous les trouverez dans l'agenda du site de Palestine 13. Nous vous recommandons, pour en savoir plus sur l'apartheid commis par Israël à l'encontre des Palestiniens, conférence sur la ségrégation systémique du peuple israélien présentée par Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France, sur invitation conjointe de la LDH et d'Amnesty International à Aix et Marseille. Mercredi 23 novembre, 17h30, Faculté de droit, boulevard Schumann, salle Pouillon, à Aix-en-Provence. Jeudi 24 novembre, 18h30, La Canebière, au 93, à Marseille, salle Fosséa. Et enfin, la médiathèque de Digne, 7 rue Colonel Payan, pendant la semaine du 25 novembre au 2 décembre, présente sur le thème « Contre l'apartheid, la Palestine résiste ». Mais avant de commencer notre revue de presse, nous tenons, Jean-Yves et moi, à vous faire état de ce qu'a déclaré l'acteur américain Mark Ruffalo depuis Hollywood. Un comédien rencontré dans Zodiac de David Fincher, ou Shutter Island de Martin Scorsese, ou encore Dark Waters de Todd Haynes. Je le cite. Si l'ONU adopte la nouvelle définition de l'antisémitisme de la IHRA, l'Alliance internationale pour le souvenir de l'Holocauste, les dommages seront exponentiellement plus importants pour les droits de l'homme, mais aussi pour l'ONU elle-même, annonce le comédien soutien permanent de la lutte des Palestiniens. Rappel de la définition de l'IHRA de cette association. L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. De quoi s'agit-il au fond ? Examinons le problème que pose une telle définition et qu'aujourd'hui il y aurait une synonymie inacceptable entre antisionisme et antisémitisme. Et Mark Ruffalo a bien repéré la question et la honte que serait cette adoption pour l'ONU. En France, si Macron s'est opposé à la criminalisation de l'antisionisme, il a quand même déclaré au repas du CRIF le 20 février 2019 que la France mettra en œuvre la définition de l'IHRA, c'est-à-dire, selon lui, préciser et raffermir les pratiques de nos forces de l'ordre, de nos magistrats, de nos enseignants, de leur permettre de mieux lutter contre ceux qui cachent derrière le rejet d'Israël la négation même de l'existence d'Israël. Mais, alors ça, maintenant, c'est fin de citation de Macron, mais en fait, aujourd'hui, aucun État, à l'exception de l'Iran, ne prône la négation de l'existence d'Israël. Donc nous voyons clairement de quelle manœuvre il s'agit. Museler toute critique d'Israël et de son occupation hyper violente de la Palestine et du système d'apartheid qui l'accompagne. Voilà le fin mot de l'histoire. Donc restons très vigilants, parce que si jamais cette déclaration est acceptée par l'Assemblée de l'ONU, là c'est une catastrophe générale, c'est-à-dire que l'ONU baisse pavillon et que la difficulté pour ceux qui luttent pour la cause palestinienne sera une lutte beaucoup, beaucoup plus difficile.
Alors, en fait, il y a eu aussi, il n'y a pas longtemps, un député communiste qui a voulu faire passer une résolution à l'Assemblée concernant l'apartheid israélien, ça a fait un tollé. Et quelque temps avant, il y avait un député du PR, je crois, qui avait aussi voulu faire adopter une résolution à l'Assemblée, justement pour adopter cette définition de l'IHRA, qui est quelque chose de dégueulasse à travers les exemples qu'elle utilise. C'est-à-dire que toute critique d'Israël devient de l'antisémitisme. On voit bien qui est à la manœuvre là derrière. Hein.
Alors maintenant, nous allons évoquer une question qui est vraiment une question d'actualité en Cisjordanie, enfin à l'égard des Palestiniens. C'est la question de la résistance de la population, et donc, entre guillemets, d'une résistance qui pourrait être une résistance armée. Vous savez que chaque fois qu'on découvre un Palestinien avec un caillou ou un couteau ou éventuellement une arme, il est immédiatement traité de terroriste. Donc, afin de clarifier la situation entre agresseurs et agressés, occupants et occupés, assassins et assassiné, je suis allé chercher dans les archives des résolutions de l'ONU pour un rappel qui devrait interdire définitivement le terme de terroriste. J'y ai trouvé la résolution 3314 de 1974 qui déclare « En territoire occupé, la résistance armée à l'occupant est reconnue par les Nations Unies ». En effet, cette résolution 34-14 de l'Assemblée générale des Nations Unies a interdit aux États membres toute occupation militaire, même temporaire. Le terme « lutte armée » a été intégré dans cette résolution sans définition précise, comme beaucoup d'autres qui ont précédé, et qui ont maintenu le droit des populations indigènes à expulser un occupant. Cette imprécision devait disparaître le 3 décembre 1982. Ce jour-là, la résolution 3743 de l'Assemblée générale des Nations Unies a supprimé tout doute au débat sur le droit légal des peuples occupés à résister aux forces d'occupation par tous les moyens reconnus. La résolution réaffirma la légitimité de la lutte des peuples pour l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la libération de la domination coloniale et étrangère par tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée. Donc voilà quelque chose qui nous dit à peu près que le terme de terroriste appliqué aux Palestiniens est complètement obsolète.
Alors, donc, en fait, parce que ils sont un territoire occupé par une armée étrangère.
Oui, bien sûr, mais tu sais quel est l'argument d'Israël de dire « mais on n'occupe pas un pays puisque ce pays n'existe pas ». Évidemment, ils sont arrivés...
Ils appellent ça un pays disputé, des terres.
Oui, les terres disputées, pas des terres occupées, elles sont disputées. Elles sont un peu à toi, un peu à moi, mais beaucoup à moi.
Voilà. Donc j'ai trouvé une illustration de ce que tu viens de dire là, dans un article du site Plus 972, qui a été traduit par l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui s'intitule « Un soldat n'est pas un civil ». Donc, il est un peu ancien, cet article, il date du 6 septembre 2022, et en fait, il parle de quelque chose qui s'est passé le 4 septembre 2022. Un bus de soldats a été mitraillé, des soldats israéliens, a été mitraillé par des Palestiniens près de la vallée du Jourdain. Et en fait, il y a eu 7 blessés près de la colonie israélienne de Hamra, qui est un territoire occupé par l'armée. 2 Palestiniens armés suspectés ont été arrêtés, un troisième était toujours recherché à la date de l'article. Et suite à ce mitraillage d'un bus de soldats, tout le monde a utilisé le même vocabulaire pour décrire ce qui s'est passé. Les tireurs palestiniens ont été définis comme des terroristes, tandis que l'événement lui-même était qualifié d'attaque terroriste. Mais, à notre connaissance, aucun des reportages n'a mentionné un fait fondamental. Ces tirs se sont déroulés en territoire occupé. Les médias israéliens en particulier, mais pas seulement, évitent toujours de faire la distinction fondamentale entre une action dirigée contre des soldats et une action dirigée contre des civils. Tout manifestant palestinien est considéré comme un émeutier ou un terroriste, et toute résistance armée aux invasions israéliennes dans les villes de Cisjordanie, invasion qui est aujourd'hui quasi routine, toute résistance est donc du terrorisme. Pendant ce temps, Israël élargit régulièrement le concept de terrorisme à toute la population palestinienne. Au cours de la dernière décennie, on a entendu des responsables israéliens accuser les Palestiniens d'absurdités telles que le terrorisme immobilier. Les Palestiniens construisent de façon illégale, entre guillemets, parce que Israël ne donne jamais de permis de construire. Ça, c'est du terrorisme immobilier. Et puis, il y a le terrorisme diplomatique. Toutes les actions de l'autorité palestinienne ou quelque autre autorité palestinienne, donc, sont considérées comme du terrorisme diplomatique à partir du moment où ils demandent à faire partie de tels organismes comme l'ONU ou autre. Voilà. Et le ministre de la Défense, Benny Gantz, n'a pas hésité à déclarer que plusieurs des plus importantes organisations de la société civile palestinienne étaient des organisations terroristes car liées au FPLP. Il y a eu 7 organisations qui ont été déclarées comme terroristes, et l'Europe et les États-Unis ont demandé à Israël de prouver son affirmation, ce qu'il n'a pas pu faire, bien entendu. Donc il s'agit simplement de museler ces ONG.
Et oui, donc, et d'une manipulation dangereuse quand même.
Tout à fait. Donc effectivement, manipulation dangereuse de l'opinion publique, parce que le peuple n'arrive plus à faire la distinction entre le terrorisme et une opposition, même armée, qui est légitime par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure à propos des résolutions de l'ONU. En fait, dès qu'une personne revêt un uniforme militaire, elle reçoit les protections et les droits stipulés par les lois de la guerre, comme celui d'utiliser la violence dans les limites de ces lois, bien entendu. Mais cette personne habillée en militaire renonce également à certaines protections. Elle peut devenir une cible légitime dans un conflit armé. C'est le droit international qui dit ça, hein, bien entendu. Le droit international cherche ainsi à marquer clairement les limites de la violence. Les combattants combattent des combattants et les civils ne doivent pas être mêlés au conflit. Mais le problème, c'est qu'Israël ne reconnaît aucun Palestinien comme combattant. Cette catégorie n'existe tout simplement pas en Israël. Israël tue des combattants en tant que combattants, tout en les emprisonnant en tant que civils et non en tant que prisonniers de guerre. Donc le droit international, tu l'as dit, reconnaît le droit d'un peuple à lutter pour sa liberté par tous les moyens à sa disposition, y compris la lutte armée. La façon dont la violence et la force sont utilisées doit être conforme aux lois de la guerre, dont le but principal est de protéger les civils non impliqués des deux côtés. Si on se base sur ces normes juridiques, le mitraillage dans la vallée du Jourdain était un acte de résistance armée contre une puissance occupante sur un territoire occupé. Alors aujourd'hui, Israël, bien entendu, on l'a vu, ne fait pas de distinction entre une action contre des soldats de l'occupation, c'est du terrorisme, et une action dirigée contre des civils, c'est aussi du terrorisme pour eux. Donc, si Israël ne fait pas de distinction entre ces différentes actions, les Palestiniens, je suppose, ne se sentent pas vraiment obligés de le faire également. Voilà. Donc voilà pour appuyer ce que tu as trouvé comme information sur le sujet.
Oui, mais on voit bien que chaque fois il y a une façon de nommer les choses qui n'est jamais la bonne, à savoir que lorsque nous disons que nous sommes antisionistes et qu'on nous répond vous êtes antisémitisme. Quand les Palestiniens disent « on se défend, on combat pour notre cause », on leur répond « vous êtes des terroristes ». Mais je crois qu'à force de raconter et de claironner ça, ça imprègne un petit peu tout le monde, et même les organes de presse et même les grands médias qui font pas, pour eux, les Palestiniens, je crois pas que ce soit des combattants. Je crois plutôt qu'ils intègrent que, puisqu'Israël dit que c'est des terroristes, on intègre ça comme étant la norme. Donc on a du travail à faire pour à chaque fois rétablir la vérité, à savoir ce qu'a dit la résolution des Nations Unies qui dit que la lutte, même la lutte armée est juste et légale.
Alors il y a un point sur lequel j'espère que tu as raison. Personnellement, je pense plutôt l'inverse. Quand tu parles des médias, des journalistes qui acceptent, qui intègrent ce qu'Israël dit, je suis plus pessimiste sur le sujet. Moi, je pense qu'en fait, ils en sont tout à fait conscients. Franchement, on ne peut pas me dire que des journalistes en France ne savent pas ce qui se passe en Palestine, que Macron ne sait pas ce qui se passe en Palestine, que nos politiques ne le savent pas. Tous le savent, mais ça les arrange bien d'écouter ce qu'Israël énonce comme sa vérité. Ce sont des terroristes. Donc, personnellement, je suis très pessimiste sur le sujet et je crois que ce sont des menteurs entre tous, c'est tout, hein, parce que.
Mais alors.
Pas possible qu'ils sachent pas.
Bien
pas
sûr, possible. Bien sûr, ils savent. Ok, j'accepte. Mais alors, dans ce débat compliqué, il y a de nouveau un soutien qui vient aider les Palestiniens. Et après le rapport d'Amnesty International sur l'apartheid israélien, c'est la rapporteuse spéciale des Nations Unies qui fait un constat alarmant. Francesca Albanese dénonce l'occupation coloniale menée par Israël et ses pratiques d'apartheid. Dans un rapport rendu public mardi 18 octobre 2022, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires occupés, les Palestiniens occupés, a déclaré que les agissements d'Israël contre les Palestiniens de Cisjordanie occupés s'apparentent à de la persécution. La concrétisation du droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination exige le démantèlement définitif de l'occupation coloniale menée par Israël ainsi que ses pratiques d'apartheid, rappelle la rapporteuse. Daté du 21 septembre 2022, le rapport détaille les efforts israéliens visant à anéantir l'identité et la souveraineté collective palestinienne. Il fait notamment référence à l'attaque du 13 mai 2022 par les forces israéliennes lors des funérailles de la journaliste Shirin Abu Akleh. Cette attaque visant les porteurs du cercueil portant leur drapeau national. On se souvient tous de ces images d'horreur où les Palestiniens qui portaient ce cercueil ont été chargés par la police ou l'armée, peu importe, et on a vu que le cortège, que les porteurs vacillaient en ayant grand peur que le cercueil tombe à terre. Donc même, ils ne respectent pas les vivants, mais ils ne respectent pas non plus les morts, ni les vivants en train d'inhumer leur mort. Voilà encore un bon scandale et une horreur à mettre au débit de cet État qui se veut une démocratie. Francesca Albanese évoque aussi l'usage de la force létale allant à l'encontre des journalistes et travailleurs humanitaires qui critiquent Israël, ainsi que les mesures de détention provisoire des dirigeants politiques palestiniens. Le rapport aborde le cas récent de Salah Amouri, un avocat franco-palestinien de Jérusalem, que vous commencez à tous bien connaître parce qu'on en parle régulièrement, détenu sans inculpation ni procès depuis à nouveau le 7 mars 2022 sur la base d'allégations de terrorisme. Selon le rapport, près de 4 500 Palestiniens sont actuellement détenus, dont 730 sans aucune charge et en grande partie sans non plus la base de preuves concrètes. Tandis que des enfants âgés d'à peine 12 ans ont été victimes d'arrestations et de détentions arbitraires. 500 à 700 mineurs sont détenus chaque année par le gouvernement israélien. En août, les forces israéliennes ont fermé les bureaux de 7 groupes de défense des droits provenant de la société civile palestinienne en Cisjordanie occupée. Le rapport a qualifié cette mesure d'abus de la législation antiterroriste. Ceci ressemble à un effort visant à réduire encore davantage, voire à interdire complètement l'espace propice à la surveillance des droits de l'homme et l'opposition légale à l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Francesca Albanese déclare encore qu'il était temps de procéder à un changement de paradigme dans les relations d'Israël avec la communauté internationale. La rapporteuse a critiqué les efforts déployés par les États de la région pour normaliser les liens avec Israël, qualifiant les tentatives de rétablissement de la paix d'inexactes, car elles n'ont pas axé leurs approches sur les droits de l'homme, en particulier le droit à l'autodétermination, et ont négligé les fondements coloniaux de l'occupation israélienne. C'est-à-dire que toute la région qui a fait la paix avec Israël y est allée de sa sécurité ou des avantages que ça lui rapportait, mais jamais la question de savoir quel était le droit en la matière des Palestiniens sur leur terre n'a été un point d'achoppement. Au contraire, le Maroc, on a vu, a signé sans coup férir sur cette question. Le rapport invite...
Maroc, juste une remarque, le Maroc qui a un peu la même approche qu'Israël avec les Palestiniens à propos du Sahara occidental, qui est aussi occupé en contradiction avec toutes tout le droit international.
Hein. Oui, et s'opposant depuis toujours à un référendum. Voilà. Sur le terrain que les responsables sahraouis demandent depuis que le Maroc a... Voilà. Le rapport invite enfin le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à publier une base de données actualisée des entreprises impliquées dans les colonies. Les activités économiques en Cisjordanie occupée ont récemment fait l'objet d'une attention particulière via l'action en justice du fabricant de glace Ben & Jerry's concernant la vente de ses activités en Cisjordanie occupée par sa société mère Unilever. Le rapport appelle les États à exiger la fin immédiate de l'occupation illégale de la Cisjordanie par Israël et la restitution de toutes les terres et ressources dont le peuple palestinien a été à la fois déplacés et dépossédés, indépendamment des négociations entre Israël et la Palestine pour régler, dit-elle, le conflit. Voilà, là aussi, il y a une erreur, parce qu'on sait qu'un conflit décrit deux oppositions de forces à peu près égales, en tout cas s'affrontant pour une question centrale. Là, il n'y a pas de conflit, puisqu'il y a un occupant et l'autre a des petits cailloux dans la main.
Dans ta dernière phrase, là, tu parles de restitution de toutes les terres et ressources dont le peuple palestinien a été dépossédé. En fait, quand on réfléchit bien, Israël a volé, que ce soit en 1948, au moment de la déclaration de la naissance d'Israël, en 1948, quand ils ont chassé les Palestiniens, en fait, ils ont tout volé là-dedans, les biens, les meubles, l'argent qui était déposé dans les banques, les Palestiniens avaient été chassés, et ils continuent aujourd'hui avec les terres que les Palestiniens possèdent en cherchant à les faire partir, en réquisitionnant des terres pour les manœuvres de l'armée, etc. Hein. Donc c'est un pays riche, Israël, mais sa richesse a été acquise d'une façon assez malhonnête.
Oui, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai parce qu'on en a eu l'information souvent, à savoir qu'un terrain qui était un terrain palestinien, tout d'un coup, les Palestiniens ne pouvaient plus retourner sur leur terrain car il était déclaré terrain militaire. Ouais. Voilà une façon d'exproprier qui est évidemment.
Et après, l'armée, elle laisse les colons s'installer sur ces terres en plus. C'est souvent un problème. Voilà.
Bon, alors maintenant, Jean-Yves, tu vas nous parler d'une atteinte au droit à la vie et à l'intégrité corporelle.
Voilà, en fait, en ce moment, Israël se lâche. Ça fait, il y a toujours eu des problèmes dans les territoires palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Et aujourd'hui, on est dans une période qui est quand même encore plus violente que ce qu'on avait l'habitude jusqu'à présent. Et donc j'ai trouvé des infos sur le site Info Gaza, qui est tenu par le Palestinian Center of Human Rights. Et je me suis attaché simplement à récupérer les infos concernant une semaine du 27 octobre de novembre 2022, les différentes atteintes de l'armée israélienne aux droits des Palestiniens. Alors, première atteinte, c'est le droit à la vie et à l'intégrité corporelle. En fait, il y a 11 Palestiniens, dont 3 enfants et 2 ambulanciers, qui ont été blessés, des dizaines d'autres étouffés lors d'attaques des forces d'occupation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée. Quand on dit étouffés, ils sont étouffés sous les gaz lacrymogènes. D'après ce que l'on dit, ce n'est pas tout à fait les mêmes gaz que l'on a chez nous, qui sont déjà assez dangereux pour la santé. Là-bas, ils sont encore plus dangereux. Et pour l'instant, à ce jour, en 2022, les attaques des forces d'occupation israéliennes ont tué 158 Palestiniens, dont 106 civils, 32 enfants, 8 femmes et 2 Palestiniens tués par des colons israéliens. 17 d'entre eux ont été assassinés. En outre, des centaines de Palestiniens ont été blessés lors des attaques dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Et 5 détenus palestiniens, dont une femme, sont morts dans les prisons israéliennes. Alors quand on parle d'enfants assassinés, il s'agit bien d'assassinats, parce que tout à l'heure on parlait de terroristes. Un enfant, même s'il a 12 ans, il est considéré comme terroriste à partir du moment où il a jeté une pierre sur une voiture blindée de l'armée israélienne. Donc je vous laisse imaginer. Et dernièrement, le gouvernement d'Israël a autorisé l'armée à tirer sur un enfant qui avait lancé une pierre, même
s'il s'en va, s'il s'en va en courant, oui.
Voilà, même dans le dos. L'armée a le droit de tirer dans le dos. On parlait aussi des acquisitions de terrain, et tout à l'heure, j'avais dit un mot des permis de construire qui sont systématiquement ou presque refusés aux Palestiniens, alors qu'il y a des milliers de constructions qui sont faites dans les colonies israéliennes. Donc les forces d'occupation sur la semaine donc du 27 octobre 2 novembre, elles ont démoli 9 maisons. Bien entendu, une maison démolie, c'est des femmes, des enfants, et des gens qui deviennent sans abri. Donc il y a eu 31 Palestiniens, dont 8 femmes et 13 enfants, qui se sont retrouvés à la rue, leur maison étant détruite. Et depuis début de l'année, les forces d'occupation ont fait 127 familles sans abri, c'est-à-dire 748 personnes, les familles palestiniennes étant relativement élargies, 146 femmes et 339 enfants donc qui se retrouvent sans abri. C'est le résultat de la démolition par les forces d'occupation de 139 maisons, également des tentes résidentielles et ou agricoles. Les forces d'occupation ont également démoli 93 autres objets économiques, nivelé des terrains vacants et délivré des dizaines d'avis de démolition, d'arrêt de construction et d'évacuation. Il faut savoir qu'ils peuvent déposer un avis de démolition la veille du jour où ils vont arriver devant la maison, la veille du jour où ils vont arriver avec leur bulldozer. Et quand ils arrivent, la maison n'est pas détruite, bien entendu, ils le font. Et ils font payer aux Palestiniens le coût de la démolition, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui préfèrent démolir leur maison eux-mêmes parce qu'ils savent que ça leur coûtera moins cher.
Oui, non, je voulais dire qu'on allait peut-être faire la pause musicale ici. Oui. Et tu nous présentes...
Alors donc, effectivement, lundi, donc nous sommes mercredi aujourd'hui, lundi, Michel Buller, qui est un chanteur suisse francophone, est décédé. Et c'était un grand ami de la Palestine. Il a écrit une chanson en Palestine. Et dans les années 60, il était connu pour des chansons sur les immigrés. Voilà. Et nous allons l'écouter. Donc, Michel Buller, chanteur suisse, soutien des Palestiniens.
À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales. Et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non, c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, c'est une route qui passe à deux pas larges et lisses et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus. Implacable, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme, contre l'acier brûlant, que peut un cœur qui bat. Et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout. Et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier, quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. Thank you.
Voilà, merci. Et nous reprenons à l'endroit où nous avons, nous avons laissé, c'est-à-dire je vais enchaîner, Jean-Yves, sur, sur la pelouse, sur, parce que comme les forces d'occupation se livrent quotidiennement à des exactions, le plus souvent mortelles, pour des Palestiniens souvent très jeunes, nous ferons le point chaque mois sur ces violences et ces meurtres. C'est un peu ce que tu as commencé tout à l'heure. Et je le continue à partir d'exemples, de nouveau, sur les exactions de l'armée israélienne. Donc, le mois dernier, assaut de la ville de Naplouse par l'armée d'occupation israélienne, 3 Palestiniens tués et plus de 40 blessés. Le mois dernier, des colons israéliens attaquent des écoliers à coups de pierres et matraques. Alors, il faut dire que les colons sont maintenant des forces d'appoint, hein, c'est-à-dire que ou l'inverse, c'est-à-dire que c'est eux qui font régner l'ordre et l'armée vient comme force d'appoint ou l'inverse. Le mois dernier, l'armée israélienne d'occupation a tué 2 jeunes Palestiniens, Bazel Basbouf et Khaled Al-Dabas. Alors nous, on voit ça tous les jours arriver, on voit des photos sur, sur Facebook, on se dit, voilà, eh ben, on voit de jeunes gens, de très jeunes gens, et qu'est-ce qu'il est écrit en dessous? Il est écrit, voilà, cet enfant, ces très jeunes gens ont été tués d'une balle dans la tête par l'armée israélienne. Le mois dernier, vous vous en souvenez, il faut le comptabiliser encore, Ryan Suleiman avait 7 ans, pourchassé par des soldats israéliens sur le chemin de l'école, il a chuté, et a décédé, est décédé peu après à cause de cette chute. C'est une mort par délégation. Le mois dernier encore, 2 jeunes tués par Israël près de Ramallah. Une Israélienne. Alors maintenant, voilà. Donc vous voyez à peu près quel est le sinistre éphéméride de cette colonisation qui s'est extrêmement durcie depuis quelques mois. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, comme le disait Jean-Yves, un enfant avec un caillou à la main est un terroriste et immédiatement, on lui tire dessus. Mais on va passer à une autre façon de lutter contre l'occupation. Et cette fois, il s'agit d'une Israélienne qui est allée donner un coup de main à des agriculteurs palestiniens pour le ramassage des olives. Et vous allez entendre ce qui s'est passé. C'est très instructif parce qu'on ne fait pas de détails. Bon, c'est pas plus mal hein, que les Israéliens qui donnent un coup de main aux Palestiniens se rendent compte de ce qui se passe vraiment. Donc, Agar Geffen, une juive israélienne de 70 ans, le mercredi 19 octobre, a été sauvagement battue et lynchée à coups de pierre et bâton par des colons israéliens alors qu'elle aidait un agriculteur palestinien à cueillir ses olives à Kissan, un village au sud de Bethléem. Arrivée à l'oliveraie avec des militants palestiniens, juifs et italiens, elle raconte « L'agriculteur a découvert que ses olives avaient été volées et ses oliviers aspergés de produits chimiques par les colons. Nous avons cueilli celles qui restaient et pris des photos. » Alors ça, il faut dire que c'est extrêmement fréquent. Les colons envahissent les oliveraies. Quelquefois, avec des tronçonneuses, ils coupent l'ensemble des troncs. Et où ils empoisonnent les fruits. Et donc, c'est là qu'un groupe de 60 colons, ajoute cette personne, répartis en 4 groupes, sont sortis des collines pour nous attaquer. Ils ont jeté Agar, le paysan, au sol, avant de... Agar, la personne juive qui venait les aider, au sol, avant de la lyncher avec des bâtons et des pierres. Ils ont crié qu'ils allaient me tuer et que nous n'avions pas le droit d'exister dans ce pays. Hospitalisé au centre Charles Zedek de Jérusalem avec une main et des côtes cassées, un poumon perforé et des points de suture à la tête, Agar n'a pas l'intention de cesser ses actions de solidarité avec les Palestiniens. « Je veux continuer à protéger les agriculteurs palestiniens. J'espère revenir bientôt pour protéger les bergers dans la vallée du Jourdain. » Voilà, c'est la source, c'est Haaretz hein, qui a livré ça. On verra peut-être tout à l'heure que Haaretz est finalement le seul moment de résistance, enfin le seul établissement de résistance à l'intérieur d'Israël. Jean-Yves, maintenant, à toi.
Oui, en parlant de résistance,
voilà.
Donc, en fait, donc on sait qu'Israël est très, très en avance, très en pointe, sur tout ce qui est technologie de surveillance, reconnaissance faciale, etc. Par exemple, à Hébron, ils ont mis en place un système qui permet de suivre n'importe quelle personne à n'importe quel moment. Et donc cette technologie, certains, justement à Hébron, l'ont détournée pour protéger les oliveraies. En fait, il y a eu, au mois de septembre, le lancement d'une association qui s'appelle Counter Surveillance H2. H2 est le nom d'une des parties qui a été donnée après les accords d'Oslo à un quartier d'Hébron. Hein. Donc c'est un projet communautaire d'artistes alliés Hébron dans la ville d'Hébron, qui est au sud de la Cisjordanie occupée. Et en fait, l'objectif, c'est de réutiliser la technologie qui a été utilisée à l'origine par l'armée israélienne pour opprimer et soumettre la population locale, et de l'utiliser pour protéger la terre et le patrimoine du peuple palestinien. À chaque automne, donc, la récolte des olives, dont tu viens de parler, est une période cruciale dans la ville, dans la vie des nombreuses familles palestiniennes, dont c'est souvent le seul revenu. Donc c'est une cible aussi pour ceux qui sont déterminés à étendre les colonies israéliennes illégales. Entre août 2020 et 2021, plus de 9300 oliviers ont été détruits en Cisjordanie. Vous vous rendez compte? 9300. Et depuis 1967, donc c'est la date de l'occupation israélienne en Cisjordanie, 800 000 oliviers ont été déracinés par les autorités et les colons israéliens. Donc ils viennent avec des camions, ils les arrachent, ils les coupent.
Non, ils viennent avec des tronçonneuses, ils abattent les arbres, et quand ils ont fini, ils emmènent tout ça, ou ils le brûlent, et après ils essaient de venir déraciner de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune trace.
Voilà. Donc dans chaque aspect de la vie d'un Palestinien dans le territoire est intensément surveillé, donc notamment dans la vieille ville d'Hébron, le quartier H2, où des caméras apparaissent tous les 100 mètres, observant et enregistrant la vie quotidienne des personnes, en violation de leur droit fondamental à la vie privée. Du moment où vous quittez votre maison jusqu'au moment où vous rentrez chez vous, vous êtes filmé. Donc ça, c'est Issa Amro, un défenseur des droits de l'homme, officiellement reconnu par les Nations Unies, qui parle, entre parenthèses, Issa Amro, donc aujourd'hui, il est assigné à résidence chez lui, entouré de militaires israéliens. Et au cours des deux dernières années à Hébron, l'armée israélienne a intégré la reconnaissance faciale. En fait, chaque militaire israélien a un appareil photo, il arrête un Palestinien, il prend sa photo, et immédiatement, l'application qu'il utilise va identifier l'individu et va lui indiquer avec une couleur rouge, jaune ou vert s'il doit être arrêté, détenu ou laissé tranquille. Voilà. Et donc, Adam Brumberg, un artiste juif sud-africain, ancien militant de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est le nouveau directeur de Artists Allies Hébron, il a déclaré que Counter Surveillance veut, à travers l'installation de caméras de surveillance sur mesure dans les oliveraies appartenant à des Palestiniens, utiliser la même technologie, mais avec un objectif différent. En diffusant en direct les images sur divers sites à travers le monde, le regard électronique ne cherche pas à contrôler, punir ou instiller la peur. Il s'agit plutôt d'une tentative de stratégie de construction communautaire qui couvre le monde entier. Dans le monde, donc, les individus et les organisations de conscience pourront ainsi garder un œil vigilant sur ces arbres précieux, dont certains ont plus de 900 ans. C'est une occasion de faire preuve de solidarité en veillant à ce que ces habitants courageux et leurs actes héroïques soient non seulement surveillés, mais aussi vus par un maximum de personnes.
Voilà.
Donc on vous indiquera quand on aura les infos sur les sites qui permettent de surveiller les oliviers palestiniens.
Alors voilà. Maintenant, on va passer à un moment qui s'est déroulé pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, où le Premier ministre Lapid a a déclaré quelque chose qui est totalement réfuté, qui a levé une protestation énorme de la part des Palestiniens, puisqu'il a déclaré que les Palestiniens étaient Neighbors, c'est-à-dire Neighbors, c'est des voisins, et eux ne s'estiment pas les voisins. Il n'est pas le premier dans l'histoire de l'ONU à prononcer un discours rempli de slogans et de mensonges. Dans les rapports de l'ONU sur la domination d'Israël sur les Palestiniens, les dirigeants et les assistants peuvent trouver des informations pour les réfuter. Les remarques suivantes sont destinées à les aider à naviguer entre les détails. Lapid n'est pas non plus le premier politicien israélien, il ne sera pas le dernier à utiliser la mémoire de l'Holocauste en vain comme l'arme nucléaire de propagande la plus réussie d'Israël. Il est tout à fait prévisible de mentionner l'Holocauste comme outil pour faire taire, à l'avance, même la plus légère critique de la domination d'Israël sur les Palestiniens.
Si on peut faire juste une remarque,
oui,
parce que ça me paraît important. Donc c'est un article qui a été écrit par Amira Haas. Amira Haas, c'est une juive israélienne, donc qui habite en Palestine et qui écrit dans Haaretz, hein, justement, dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà.
Et le problème est qu'il y a trop de chefs d'État à l'Assemblée générale qui sont prêts à croire ou à faire semblant de croire à la propagande selon laquelle Israël est une démocratie pacifique et aussi une victime innocente de conspiration et de terrorisme. Ce faux semblant dispense ces pays de l'obligation d'honorer les conventions internationales et le droit international et de prendre des mesures fermes contre la violation israélienne du droit. Prenons l'exemple de l'ex-première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, qui a déclaré avant de quitter ses fonctions qu'elle envisageait de transférer l'ambassade de son pays en Israël à Jérusalem. Cette déclaration, qui ne sera, espérons-le, jamais appliquée, est un autre prix décerné à Israël pour le désastre qu'il a causé à la Jérusalem palestinienne en la coupant du reste du territoire conquis en 1967. Un autre prix pour sa politique constante d'appropriation des terres dans la ville, pour avoir appauvri la majorité de ses résidents, tout en expulsant beaucoup d'autres hors de ses frontières. Commençons par les serfs de la bande de Gaza, qui semble être la pièce de propagande la plus bizarre sortie du grenier pour ce discours. Outre la main-d'œuvre palestinienne bon marché, les serfs des colons sur les terres volées ont prospéré avant le désengagement unilatéral d'Israël de Gaza en 2005, pour trois raisons principales. Un approvisionnement régulier en eau de bonne qualité en provenance d'Israël et de la bande de Gaza, une alimentation continue en électricité, un accès au marché et au port, trois conditions qui n'existaient pas et qui n'existent toujours pas pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Israël impose un régime hydrique autarcique à la bande de Gaza, comme s'il s'agissait d'une île autosuffisante géographiquement coupée du reste du pays. Après tout, il aurait était tout à fait approprié qu'Israël fournisse de grandes quantités d'eau à Gaza plutôt que de minuscules quantités qu'il vend aujourd'hui à l'enclave côtière en compensation de ce qu'il pompe et vole aux Palestiniens de Cisjordanie. Depuis plus de 30 ans, la partie de l'aquifère, située dans la bande de Gaza fait l'objet d'un pompage excessif avec pour conséquence une salinité trop élevée dans le meilleur des cas, l'eau n'est pas adaptée à de nombreuses cultures et une pollution due au ruissellement des eaux usées et des toxines. La perturbation de l'approvisionnement en électricité sont dues à des conflits internes entre Palestiniens eux-mêmes, aux dommages causés aux infrastructures par les bombardements israéliens, aux limitations de quantités de carburant importés et à la détérioration économique générale causée par le blocus. « Déposez vos armes », cette phrase a été prononcée par le chef d'un pays dont la force économique et diplomatique dépend de ses industries d'armement et d'espionnage. Nous pouvons mesurer le jeu de dupes que Lapid veut installer face à l'auditoire de l'Assemblée générale. C'est vrai que là, c'est un comble. Dire à un peuple désarmé qui a décidé de mener une lutte non violente, enfin, quoique poussé par moments à le devenir, déposer vos armes, c'est ridicule, et en même temps, ça ne trompe, je l'espère, personne. Voilà, à toi la suite.
Sauf ceux qui veulent y croire.
Voilà.
Donc la politique de blocage c'est-à-dire les restrictions sévères à la circulation qui ont été imposées à la bande de Gaza en janvier 1991, avant les attentats suicides et les roquettes du Hamas et la création de l'autorité palestinienne. Cette politique de bouclage a subi un certain nombre de changements, mais la raison qui la sous-tendait était et reste politique et non pas militaire ou sécuritaire. Déconnecter la population de la bande de Gaza de celle de la Cisjordanie a été fait dans le but de réduire à néant les chances d'un État palestinien fondé sur les frontières de 1967. Que se passera-t-il si les Palestiniens déposent les armes ? La prétention que le Hamas est un adversaire militaire égal à Israël sert ses objectifs politiques et son image, mais ne libère pas la Palestine. En revanche, cela aide grandement la propagande israélienne. Et contrairement à ce qu'énonce Lapid, les Palestiniens ne sont pas les voisins d'Israël, ils sont le peuple autochtone qui a émergé, vécu et développé la terre entre le Jourdain et la mer Méditerranée, bien avant l'immigration sioniste. Abstraction faite des circonstances historiques qui ont conduit à sa fondation, Israël a été établi à leurs dépens par l'expulsion de plus de la moitié d'entre eux, 700 000 à l'époque de la Nakba, et la création d'un système politique qui, dès le départ, visait à les exclure.
Ce qui nous amène à constater qu'Israël est une démocratie pour les Juifs. D'ailleurs, ça a été bien dit au mois de juillet 2018. En d'autres termes, ce n'est pas une démocratie. Près de 2 millions de Palestiniens sont aujourd'hui des citoyens d'Israël qui font l'objet de discriminations selon la loi. Dans l'attribution des budgets, dans les possibilités de travail et d'études, ils sont dépossédés de leur terre et de leur histoire et sont la cible d'attitudes et d'actions racistes, tant sur le plan individuel que politique. Toutes les réalisations des citoyens palestiniens d'Israël dans divers domaines sont le fruit d'une lutte civile longue et déterminée et non une faveur qu'Israël leur fait. Près de 5 millions de Palestiniens vivent sous la domination de l'armée israélienne et du Shin Bet depuis 55 ans, que ce soit directement comme à Jérusalem-Est annexée et dans la zone C de manière hybride, directe ou indirecte, comme dans les enclaves de l'autorité palestinienne ou effectivement comme dans la bande de Gaza. Le gouvernement d'Israël détermine presque tous les paramètres importants de leur vie. Il contrôle les frontières, il contrôle les ressources en eau et les terres qu'il s'approprie selon ses propres désirs, la liberté de mouvement et donc aussi l'économie, les liens familiaux et sociaux. Tout cela alors que les Palestiniens sont privés de tout droit civil et ne peuvent participer au processus d'élection du gouvernement qui détermine leur vie.
Et donc, deux États pour deux peuples, ça fait partie des slogans d'Israël, hein, qui se dépêchent d'empêcher d'appliquer, bien entendu, dès qu'ils le peuvent. La répétition de ce slogan creux, donc c'est toujours Amir Haas qui parle, la répétition de ce slogan creux est le service du bout des lèvres requis dans les forums internationaux. Mais on ne peut pas accuser Lapid et ses conseillers de fournir ce service. La faute en revient aux nations européennes et arabes qui ont permis à Israël, au cours des 30 dernières années, de découper le territoire destiné à un État palestinien et de le transformer en petites enclaves disjointes, entourées de blocs de colonies en constante expansion. Et pourquoi elle accuse les nations européennes et arabes ? Parce que personne ne dit à Israël « stop ». Ça suffit, vous n'avez pas le droit de faire ça.
Bien sûr. Alors, voilà. Comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'au
fur... Est-ce qu'il nous reste du temps pour parler d'Arès ou
Oui, il faut aller vite.
On parle plutôt des élections.
Ah, bon. Ben...
Parce qu'il y a eu des élections.
Vas-y, parle des élections.
Donc, il y a eu des élections en Israël. Et donc, ça date de... cette semaine. Et donc on a aujourd'hui un Netanyahou qui revient à la tête du pays avec un gouvernement d'extrême droite, qui ne dérange nullement l'Occident. Alors j'en ai deux preuves. Le 6 novembre, Macron a fait un tweet à destination de Netanyahou Je viens d'appeler Benjamin Netanyahou pour le féliciter de sa victoire aux élections. Nous partageons la même volonté de renforcer les liens déjà si forts entre Israël et la France. Donc, il y a Macron qui a dit ça, et M. Joseph Borrell, hein, je ne sais pas, je crois qu'il est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, un truc comme ça, enfin.
Jean-Yves, je t'arrête parce qu'on me fait des signes très forts qu'il faut arrêter tout de suite.
Juste, je cite Borrell parce que franchement, ça vaut l'os. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement et dans l'attente de poursuivre le travail de l'UE avec Israël, de renforcer la coopération bilatérale, de faire progresser la stabilité dans la région et de promouvoir nos valeurs communes avec Israël. Franchement, il faut oser le dire.
Voilà, merci. Voilà. Merci à tous et à bientôt, au mois prochain, pour une nouvelle revue de presse. Au revoir à tous.
Allez. Au revoir à tout le monde.
Et merci Sidi. Binti Shalabi.